VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du mardi 18 avril 2023, consacrée en grande partie à la situation au Soudan. En direct de Washington, Idrissa Seloudia, quelques titres pour commencer. Près de 200 morts en 3 jours au Soudan, où les combats se sont intensifiés. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, révèle qu'un convoi diplomatique américain a été attaqué lundi au Soudan. Par ailleurs, il a parlé séparément aux généraux rivaux au Soudan et réclamé un cessez-le-feu. De son côté, le G7, réuni au Japon, appelle à l'arrêt immédiat des combats au Soudan. En Tunisie, arrestation de Rached Ghannouchi, chef du mouvement islamo-conservateur ENADA. Le G7 dit s'opposer aux activités de militarisation de Pékin en mer de Chine méridionale après une réunion de 2 jours au Japon. Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouedraogo. Pour l'instant, le journal. Un convoi diplomatique américain au Soudan a essuyé lundi des tirs, mais personne n'a été blessé, a révélé mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, évoquant un acte irresponsable à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 au Japon. La situation au Soudan reste confuse, particulièrement à Khartoum, la capitale, où les tirs et les explosions ont augmenté en intensité lundi, au cours du 3e jour de combat entre l'armée et une importante force paramilitaire dirigée par 2 généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 et engagée dans une lutte pour le pouvoir. Plus de 185 personnes ont été tuées au Soudan selon l'ONU et au moins 1800 blessés. Les belligérants, eux, n'ont jamais communiqué sur leurs pertes. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Dans le ciel de Khartoum, les avions de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis le putsch de 2021, tentent de venir à bout des tirs intenses des blindés des paramilitaires des FSR, force de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, dit MIT, son second pour le coup d'État, devenu depuis samedi son ennemi juré. Après que 3 employés du PAM, Programme alimentaire mondial, ont été tués au Darfour, dans l'Ouest, les humanitaires dénoncent des pillages et l'ONU de graves violations contre son personnel. Lundi soir, l'Union européenne a annoncé que son ambassadeur avait été agressé dans sa résidence à Khartoum, où les combats de rue et les bombardements sont incessants et n'épargnent aucun secteur. À cause de cette situation, plusieurs ONG et agences de l'ONU ont cessé d'opérer dans le pays où la faim touche plus d'un habitant sur 3. Au moins 2 hôpitaux de la capitale ont été évacués alors que roquettes et balles criblaient leurs murs, ont annoncé des médecins qui disent n'avoir plus de poche de sang ni d'équipement pour soigner les blessés. À Khartoum, depuis le déclenchement des combats samedi, les habitants se barricadent dans leurs maisons.
Pour avoir une meilleure idée de la situation sur place, Eric Mairakidza a contacté Mohamed El Hassan Osman Salah, un journaliste soudanais basé à Khartoum.
Pas du tout, c'est pas calme. Après le coucher de soleil, il y avait des bombardements aériens dans la zone du commandement général de l'armée soudanaise, du palais présidentiel et du centre-ville. Il y avait des drones qui bombardaient ces zones. C'est vrai, c'est loin de chez moi, mais on voit les drones, on voit les projectiles, les obus, et on entend le bruit des explosions de ces obus qui sont assez grands. Parce que je suis à peu près 10 km de centre-ville, mais j'entends bien le bruit de l'explosion.
Donc personne ne sort, tout le monde est terré chez soi.
C'est toujours ville morte. Pas de transport en commun, pas de véhicules d'Amarich, à part les véhicules militaires de l'armée soudanaise, magasins et boutiques fermés, ville morte, littéralement.
Alors, 2 généraux s'affrontent. Est-ce que vous connaissez les revendications de l'un ou de l'autre?
Oui, l'armée soudanaise, commandée par le général Al-Burhan, prétend qu'elle est milice qu'elle appelle, ce sont des forces de soutien rapide, ont tenté d'attaquer ces centres militaires. Le général Emeti, chef et commandant des forces de soutien rapide, il dit que l'armée a attaqué le camp de ces forces dans la zone de qu'on appelle le cité sportive de Khartoum, et c'est sa vérité. L'accrochage a commencé là-bas, où des forces de l'armée soudanaise ont essayé de prendre le camp de forces de soutien rapide dans le cité sportive.
Et actuellement, comment vous voyez la fin de ces combats? Est-ce que les combats peuvent cesser rapidement et la population, c'est elle qui...
La population souffre, on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir de chez lui. Les provisions des magasins commencent à s'épuiser. Le café est coupé 20 heures par jour. On n'a pas le café. Deux ou trois heures par jour, il y a des gens qui se déplacent vers les régions de la Jazeera. La situation souffre fortement de cette guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide du général Emeti.
C'était notre confrère soudanais, Mohamed El Hassan Hosman Salah, qui nous parlait de Khartoum. Cette situation au Soudan a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, de Washington à Londres, en passant par le Caire et New York. John Linden.
Je condamne fermement le déclenchement des combats qui ont lieu au Soudan et appelle les dirigeants des forces armées du Soudan et des forces de soutien rapide à cesser immédiatement les hostilités, restaurer le calme et commencer un dialogue pour résoudre la crise, a déclaré depuis New York Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, Volker Perthes, s'est dit extrêmement déçu que l'armée et les paramilitaires n'aient que partiellement respecté les 3 heures de trêve qu'ils avaient dit accepter dimanche, au lendemain du début des hostilités. L'Égypte, grand voisin influent du Soudan, a annoncé avoir discuté de la situation avec l'Arabie saoudite, le Soudan du Sud et Djibouti, trois autres acteurs importants au Soudan, ainsi qu'avec Paris. Le Qatar, de son côté, s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui était censé se rendre au plus vite au Soudan, au-dessus duquel plus aucun avion ne vole. Réunis au Japon pour un sommet du G7, les chefs de la diplomatie américaine et britannique ont également appelé lundi à la cessation immédiate des violences au Soudan. Sur place à Khartoum et en pleine guerre médiatique, les belligérants ont continué de s'invectiver. Bourhan bombarde les civils depuis les airs. Nous le poursuivons et l'amènerons en justice, a lancé le général Daglo en anglais sur Twitter. En face, l'armée a assuré sur Facebook se rapprocher tout près de l'heure de la victoire définitive.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, donc en déplacement actuellement au Japon, s'est entretenu ce mardi séparément avec les deux généraux rivaux luttant pour le pouvoir au Soudan et a insisté sur l'urgence d'aboutir à un cessez-le-feu selon son porte-parole Vedant Patel. Un cessez-le-feu permettrait de fournir l'aide humanitaire aux personnes affectées par les combats, de réunir des familles soudanaises et d'assurer la sécurité des membres de la communauté internationale à Khartoum, selon les propos de M. Blinken rapportés par M. Patel dans une déclaration. Au demeurant, les diplomates en chef des pays du G7 ont appelé ce mardi à l'arrêt immédiat des combats au Soudan. Nous demandons instamment à toutes les parties de mettre immédiatement fin à la violence, de désamorcer les tensions et de rétablir un régime civil au Soudan, ont déclaré les ministres des Affaires étrangères des principaux pays industrialisés à l'issue de leur réunion au Japon. L'une des causes de la crise, c'est l'antagonisme entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo di Emeti, qui dirige le groupe paramilitaire FSR, Force de soutien rapide, qui regroupe d'anciens miliciens de la guerre au Darfour. Portrait des deux belligérants avec Jacques Aristide.
Natif de Gandatou, un village au nord de Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan, à 62 ans, incarne le visage du pouvoir militaire au Soudan. Ce père de trois enfants est devenu le dirigeant incontesté du pays depuis son putsch d'octobre 2021. L'ancien commandant de l'armée de terre de l'ex-président Omar el-Béchir est passé par les académies militaires soudanaises, égyptiennes et jordaniennes. Moustache poivre et sel et longue silhouette élancée, le général Burhan a troqué après le coup d'État son éternel uniforme kaki, son béret et ses galons bien en vue pour une tenue civile. Aujourd'hui, ses plus fervents adversaires, les derniers bastions de manifestants qui continuent de braver une répression meurtrière pour réclamer un pouvoir civil, l'accusent d'être un cheval de Troie des islamistes et des caciques de l'époque Béchir. Il pensait avoir négocié pour longtemps la loyauté de son second, le général Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti, patron des forces de soutien rapide. Hemeti est lui venu des milices qui ont semé la terreur au Darfour et s'est imposé comme un acteur incontournable de la politique et de l'économie au Soudan. Né en 1975 dans une tribu arabe à la frontière entre Tchad et Soudan, Daglo n'a pas poursuivi d'études, mais depuis 2019, l'homme à la longue silhouette a travaillé sa façon de s'exprimer en arabe. L'ancien nomade qui commerçait du bétail se pose désormais en paragon de l'état civil et en adversaire farouche de l'islam politique. Et dans la rue aujourd'hui, ce sont les hommes de Daglo qui depuis samedi tentent de ravir le pouvoir à l'armée.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, les autorités tunisiennes ont arrêté lundi le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, Rachel Ghannouchi, un des principaux opposants au président Kais Saied, accusé de dérive autoritaire, a indiqué sa formation. Monsieur Ghannouchi, qui dirigeait le Parlement dissous en juillet 2021 par Monsieur Saïd, est l'opposant le plus en vue à être arrêté depuis ce coup de force. En Guinée, le procès de l'ex-premier ministre Ibrahim Kassori Fofana pour détournement présumé de fonds publics a été renvoyé au 15 mai en raison de son état de santé, a indiqué la procureure de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont promis mardi que les pays qui fourniraient une assistance à la Russie pour sa guerre en Ukraine en paieraient le prix fort, dans une déclaration publiée à l'issue d'une réunion au Japon. L'espoir à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Athlétisme pour commencer avec le marathon de Boston, remporté hier par Evans Chebet.
Oui, le coureur kényan s'est imposé devant son compatriote, roi incontesté de l'épreuve Eliud Kipchoge, en 2h05'54. Kipchoge n'a terminé que 6e dans le Massachusetts, très loin derrière Chebet, déjà vainqueur en 2022, également lauréat du prestigieux marathon de New York l'année dernière. Evans Chebet, 34 ans, réalise ainsi le premier doublé depuis 2008. Chez les dames, Hélène Obiri réussit son passage à cette longue distance. La Kenyane, spécialiste du demi-fond, championne du monde du 5000 mètres à Londres en 2017 et Doha en 2019, s'est imposée en 2h21'38. Elle améliore son record personnel de plus de 3 minutes. Obiri a devancé la favorite éthiopienne Amanda Berezo de 12 secondes et l'israélienne d'origine kenyane Lona Salpeter de 19 secondes.
Football, les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions se jouent ce soir en Europe.
L'Italie détient la palme du suspense avant le choc entre Naples et l'AC Milan. Les Milanais ont l'avantage acquis à l'aller 1-0, mais il faudra résister au vent contraire. Un stade Diego Maradona bouillant, rempli par près de 55 000 spectateurs, et ragaillardi par le retour de blessure de l'attaquant vedette Victor Osimhen. Les tifosi du Napoli misent en grande partie sur le Nigérian, grand absent la semaine dernière à cause d'une gêne musculaire. Moins de suspense dans l'autre quart de finale retour de ce soir. Chelsea et le Real Madrid, sacrés en 2021 et 2022 respectivement, s'affrontent à Stamford Bridge. Les Espagnols débarquent avec l'élan du match aller 2-0 face aux Blues d'Edouard Mendy et Hakim Ziyech.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, fin le week-end dernier à Libreville, des assises nationales contre la vie chère. Le pays est à la recherche de solutions pour améliorer les conditions de vie des populations. Les participants à ce rendez-vous ont recommandé aux autorités de surtaxer les produits de luxe, comme les cigarettes et le champagne, de mettre fin à la parafiscalité et de détaxer les produits alimentaires importés. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est la dernière ligne droite pour les ménages musulmans. En allant faire leurs courses pour la fin du ramadan, Aïcha et Maïmouna ont presque envie de tout abandonner devant la cherté des prix des denrées alimentaires dans l'un des marchés de Libreville.
Le prix d'huile a augmenté, le prix du sucre a augmenté, même les pommes de terre qu'on achetait à 90 000, tout ça là, les pommes de terre sont maintenant à raison de 135 000.
On s'organise comme ça là, avec les prix qui sont élevés. On paye quand même, on se débrouille. Et...
Se débrouiller ou se serrer la ceinture, c'est le quotidien des familles à faible revenu. Selon les commerçants, l'inflation est en partie liée aux tracasseries policières, douanières et autres sur le circuit des importations. Suzanne Dikandou est présidente du syndicat des commerçants de Libreville.
Vous arrivez là au contrôle phytosanitaire, il a son tarif. Chez le gendarme, il a son tarif. Vous arrivez là où il y a la limite de policiers, ils ont leur tarif. La douane, surtout la douane, c'est pourquoi j'ai demandé la réduction de tout produit alimentaire terrestre à 50%.
Selon les données statistiques du ministère de la Consommation, 80% des dépenses des ménages sont absorbées par l'alimentation, le logement, la santé, l'éducation ou encore le transport, pour ne citer que ces secteurs. D'après Jean-Robert Meunier du syndicat des transporteurs, il faut vite agir pour inverser la courbe.
C'est un environnement professionnel désuet. Par exemple, dans le cas du transport terrestre, l'état de délabrement avancé des routes. Et nous avons donc proposé des solutions qui se résument en gros à baisser de 50% les charges sur les activités, à exonérer les activités qui sont en lien direct avec les produits de première nécessité et avec les produits essentiels des populations.
En réponse aux recommandations des assises nationales contre la vie chère, le chef du gouvernement s'engage à satisfaire l'ensemble des propositions sur le court, moyen et long terme. Alain-Claude Mbilizi, Premier ministre gabonais.
Il y a parmi les propositions qui sont faites, certaines qui peuvent être appliquées dans l'immédiat. Il y en a qu'il faudra étaler et on ne pourra pas malheureusement tout appliquer du jour au lendemain. Parce que certaines propositions vont nécessiter des analyses, vont nécessiter un certain nombre d'inscriptions budgétaires ou alors de renoncer à un certain nombre de taxes.
Comme il fallait s'y attendre, une commission technique sera chargée du suivi et évaluation des différentes recommandations avant leur mise en application. Libreville, Ismaël Obinze pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Burkina Faso, depuis plusieurs jours, des citoyens dénoncent la cherté des prix des communications, notamment la connexion Internet. Ils menacent de boycotter les services des différents opérateurs de téléphonie. De son côté, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes reconnaît que les opérateurs ont une liberté de fixation des tarifs conformément à la loi sur la concurrence. L'autorité demande aux Burkinabés la retenue et la poursuite des discussions. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
Le mouvement de contestation est parti de la Côte d'Ivoire. Puis des internautes, des citoyens burkinabés, eux aussi ont estimé que le prix de la correction est élevé. Mamadi Ouedraogo est un citoyen et internaute qui milite pour la baisse des prix des datas.
Au départ, certaines personnes avaient lancé une dynamique pour qu'on puisse avoir une réduction de coûts. La dynamique n'a pas suffisamment pris. Et avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a un peu réveillé le dossier et le mettre au goût du jour. Donc du coup, il y a une adhésion qui est là. De façon générale, le coût de la vie est très élevé au Burkina Faso depuis ces derniers moments. Donc il y a beaucoup de jeunes qui travaillent sur les réseaux sociaux, qui travaillent beaucoup sur Internet, qui utilisent Internet pour s'exprimer et faire marcher à leur manière l'économie ou le pays de façon générale. Donc si aujourd'hui les citoyens estiment que le coût est élevé, il appartient à tous les acteurs de façon concertée et de rassurer la population quant à ce qui doit être fait pour que tout le monde soit épanoui là où il est.
Les organisations de défense des droits des consommateurs trouvent aussi que les services sont chers et défaillants. Adama Bayala, président du RENCOF, les réseaux nationaux des consommateurs du Faso.
Tenez-vous bien qu'au Burkina Faso, la minute d'appel coûte 90 francs CFA. Et pour ce qui est des data des dégâts, vous en avez le giga pour plus de 2100 francs, 2500 francs. Alors que dans des pays voisins, je prends le cas du Niger qui est un pays sahélien, vous avez un giga à un peu plus de 1000 francs CFA. Au Ghana, un pays côtier, vous avez un giga à moins de 400 francs CFA. On ne peut pas comprendre pourquoi ce soit aussi cher au Burkina Faso. Et pour ce qui est de la qualité aussi, qualité médiocre et exécrable, avec des droits de consommateurs violés impunément dans l'indifférence.
Il y a deux types de tarifs, ceux fixés par l'autorité de régulation elle-même et les tarifs de détail appliqués aux consommateurs finaux. Salamata Wamba Ili, directrice de la régulation des marchés fixes et mobiles de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, explique à la télévision nationale.
Pour ces tarifs, c'est la liberté de fixation en fait des tarifs, conformément à la loi sur la concurrence. Donc les opérateurs fixent les tarifs de manière libre. Cependant, il y a un petit encadrement qui veut que ces tarifs-là soient transparents vis-à-vis du consommateur, donc que l'opérateur donne le maximum d'informations concernant les offres commerciales qui sont appliquées aux opérateurs.
Les responsables de l'autorité de régulation ont annoncé la semaine dernière que des concertations avec les opérateurs de téléphonie mobile se poursuivent. Ils demandent aux Burkinabés de leur faire confiance pour donner une chance aux concertations en cours. Des citoyens et internautes ont décidé de boycotter les services des opérateurs ce mardi. De 11h à midi, les téléphones seront mis sur mode avion pendant une heure. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Retour sur le Soudan où d'intenses combats se poursuivent entre l'armée et la milice paramilitaire des forces de soutien rapide faisant près de 200 morts. Jacques Aristide a joint pour une analyse Roland Marchal, chercheur au Centre de recherches internationales de Sciences Po à Paris.
Le Soudan, depuis août 2019, connaît un processus politique très difficile où il s'agit de redonner le pouvoir aux civils et en même temps éviter, avec des militaires, disons les gens en armes qui essayent de garder l'essentiel des prérogatives. Donc cela a abouti à un coup d'État en octobre 2021. Petit à petit, il y a eu une différence au sein des gens en armes, donc de l'armée officielle ou des paramilitaires. Les paramilitaires, le chef des paramilitaires se rendant compte qu'il avait en fait beaucoup plus intérêt à jouer le pouvoir civil et le retour à un ordre constitutionnel que le dirigeant de l'armée qui favorise quand même une stratégie à l'égyptienne, donc où les militaires sont l'essentiel, le pilier du régime actuel.
Pour des observateurs, ces combats sont une lutte existentielle pour les deux belligérants. Partagez-vous cet avis ?
C'est certainement une lutte existentielle pour les forces de soutien rapide des Métis. Ça n'est pas une lutte existentielle pour l'armée soudanaise qui existera de toute façon, quelle que soit l'issue de ce combat. Ce qui peut changer, c'est malgré tout l'identité du dirigeant de l'armée soudanaise, même si personnellement, je pense que le dirigeant des forces paramilitaires perdra cette confrontation parce qu'il n'a pas les appuis locaux et internationaux du général Burhan.
Comment mettre un terme à ce conflit meurtrier ?
Écoutez, il faut d'abord rappeler que ce conflit se passe dans des villes, pour l'essentiel, que donc la population civile est à la fois otage et victime de ces combats, et donc il importe que les puissances qui puissent avoir une quelconque influence sur l'un ou les deux protagonistes s'activent pour arrêter les combats, obtenir un cessez-le-feu. Disons, il y a des choses qui se passent dans la région, notamment avec l'organisation régionale LIGAD, l'Union africaine qui a quand même fait d'énormes erreurs dans la médiation par le passé veut aussi envoyer son dirigeant pour faire une médiation. Les Soudanais eux-mêmes au-delà des différences d'opinion politique s'y sont mis. Bon, les puissances occidentales plaident pour un cessez-le-feu. J'ai quand même un peu l'impression que pour l'instant, tout ça reste quand même du langage. C'est pas une critique, mais que les gens sur le terrain, les combattants des deux côtés, pensent chacun que justement, il n'y a pas d'autre solution que le combat et que donc les affrontements vont encore durer plusieurs jours, peut-être une semaine, avant de trouver une issue politique ou militaire.
Roland Marshall, chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po, joint à Paris.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum cette semaine. Gros plan sur les combats meurtriers au Soudan entre l'armée et les paramilitaires. Des puissantes forces de soutien rapide, la population prise au piège de ces affrontements paie un lourd tribut. De nombreux civils ont déjà péri dans cette guerre ouverte entre Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays, et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo, deux généraux à l'origine du coup d'état d'octobre 2021 et qui se disputent désormais le pouvoir. La communauté internationale a appelé à l'arrêt immédiat des hostilités. Comment en est-on arrivé là et comment ramener la paix? Rendez-vous ce jeudi à 19h10.
À partir de ce mardi, VOA Afrique commencera à diffuser une nouvelle émission hebdomadaire intitulée Focus Sahel ou Focus Sahel. Chaque semaine, cette émission abordera les questions urgentes auxquelles la région du Sahel fait face actuellement, tout comme les défis et les opportunités qui caractérisent cette région. Mohamedou Houmfa a reçu Timothée Donagmaï, chef du service français de La Voix de l'Amérique.
Alors Timothée, pourquoi une émission spécifique sur le Sahel et quelles sont les principales thématiques qui y seront abordées?
Alors Mohamedou, le Sahel, ce sont quelques 135 millions d'âmes éparpillées sur 7 millions de kilomètres carrés, des frontières poreuses, des zones arides, parfois d'accès difficile. C'est une région bien entendu confrontée à des crises climatiques, sécheresses, inondations, des attaques de groupes extrémistes, des bandes armées, des situations parfois attisées par des acteurs extérieurs. On a noté ces derniers temps que cette instabilité dans le Sahel est en train de descendre vers la côte atlantique et déjà des pays comme le Togo et le Bénin sont menacés. C'est donc dans ce contexte que la Voix de l'Amérique à travers Focus Sahel se propose de se pencher sur le quotidien des communautés sahéliennes et la manière dont elles s'organisent pour faire face à tous ces défis.
Alors Timothée, il faut dire que beaucoup de clichés circulent sur le Sahel, y compris dans les médias. Comment espérez-vous que cette émission contribuera à une meilleure compréhension de cette région?
Alors Mohamedou, grâce à nos correspondants sur le terrain, nous donnerons la parole aux communautés, comme je l'ai dit, pour qu'elles expliquent la complexité de la situation qu'elles vivent. Je pense par exemple à certaines communautés qui se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce que certains membres de ces communautés ont rejoint des groupes armés. Eh bien, nous donnerons l'opportunité à ces communautés-là d'expliquer ce qui se passe. En plus de nos correspondants, nous ferons aussi appel à nos stations partenaires dans les différents pays du Sahel pour des témoignages de première main, une façon pour nous de vérifier certains faits en ces temps où la désinformation sévit sur les réseaux sociaux.
Alors, plusieurs émissions sont diffusées ici même sur les antennes de VOA Afrique. Il y a donc cette nouvelle émission, Focus Sahel. Comment est-ce qu'elle s'inscrit dans la mission plus large de VOA Afrique?
La mission de VOA Afrique, c'est d'accompagner l'Afrique dans sa quête de stabilité, de développement et de mieux-être. Et nous comptons le faire en partageant les expériences de différentes communautés et pour qu'elles puissent s'inspirer les unes des autres.
Voilà. Merci beaucoup, Timothée. On se donne rendez-vous sur VOA Afrique pour écouter Focus Sahel, la nouvelle émission consacrée à cette région du Sahel. Une émission qui sera présentée par Eric Manirakiza.
Merci à Mohamedou Houmfa et à Timothée Donagmaï, chef du service francophone de la Voix de l'Amérique. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.